Nos questions, nos réponses.
Bonjour à tous et bienvenue sur Alzheimer, la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Une nouvelle émission avec vous, personnes malades, familles ou encore proches aidants. N'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, sur la page de la radio ou bien la page Facebook de l'association. Alors cette semaine, nous parlons d'une problématique extrêmement importante, la dénutrition. 2 millions de Français en souffrent et les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et apparentée sont bien entendu concernées. La dénutrition faisant partie des premières choses à prendre en compte quand la maladie apparaît. Nous sommes avec le professeur Agathe Reynaud-Simon, chef de service gériatrie à l'hôpital Bichat Claude Bernard et trésorière du collectif de lutte contre la dénutrition. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes également avec Caroline Rio, diététicienne, qui fait partie également du collectif de lutte contre la dénutrition. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, première question qui s'adresse à vous pour commencer, Agathe Reynaud-Simon. Comment un malade tombe dans la dénutrition ? Quelles sont les causes exactes ?
Les causes peuvent être multiples, en fait. La maladie d'Alzheimer en elle-même est une cause de dénutrition. On ne sait pas très très bien pourquoi, mais la maladie entraîne une perte de poids très tôt dans l'évolution de la maladie, quelquefois avant même que les symptômes soient visibles pour la famille ou même pour le médecin. Et puis, quand la maladie évolue, eh bien, les problèmes d'attention, les problèmes d'appétit, les problèmes de difficulté à faire les courses, préparer les repas, puis dans l'évolution tardive, les difficultés à s'alimenter font que la maladie d'Alzheimer est pourvoyeuse vraiment de dénutrition. Par exemple, pendant une année, 20% de la population de malades atteints de la maladie d'Alzheimer va perdre du poids.
Alors Caroline, quels signes doivent alerter à ce moment-là ?
Alors, le signe le plus courant, c'est l'amaigrissement, mais on voit de plus en plus de personnes qui ne maigrissent pas et qui ont un changement d'appétit. Donc, je dirais que au-delà de l'amaigrissement, c'est tout changement de comportement, alimentation sélective, des personnes qui mangent plutôt des féculents, les desserts, et qui mangent moins de viande et de fromage, des personnes qui sautent des repas. Donc, ils mangent moins ou différemment avec comme focus l'absence ou la diminution des apports en protéines, viande, poisson, œufs, fromage.
Alors justement, dans ce que vous êtes en train de dire, ce qui est important, c'est que la personne ne maigrit pas forcément. Il faut donc mettre aussi un terme à ces idées reçues concernant la dénutrition. Il y a une perte de poids qui est valorisée dans nos sociétés. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on souffre d'une maladie cognitive. Pour autant, il n'y a pas que l'amaigrissement qui doit alerter et c'est important de le dire et de le redire.
Alors oui, ce qui est important, c'est de veiller à l'équilibre alimentaire d'une façon très large. On sait que les personnes âgées qui maigrissent ou qui diminuent leurs apports en protéines, s'affaiblissent. Et donc, elles mettent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, comme les autres, dans une situation à risque d'avoir plus fréquemment des infections. Et elles sont aussi affaiblies sur le plan musculaire. Ça veut dire qu'elles vont avoir plus de mal à monter des escaliers, plus de mal à se lever de leur fauteuil, faire les transferts du lit, et avoir plus de risques éventuellement à tomber. Donc c'est cet amaigrissement en particulier, ou même le comportement alimentaire un petit peu aberrant, entre guillemets, peut conduire à des hospitalisations avec des difficultés de sortie de l'hôpital. Donc les problèmes alimentaires ont des conséquences cliniques très visibles chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer, comme chez les patients atteints de dénutrition d'autres causes.
Alors, est-ce qu'il y a aussi une problématique dans l'expression de la douleur qui est difficile chez certains patients ? Est-ce que ça peut être une autre cause de la dénutrition ?
C'est vrai que l'expression de la douleur est différente chez les patients malades de la maladie d'Alzheimer, mais à des stades plutôt très évolués. On sait qu'à tout âge, quand on a mal, on mange moins. Chez les personnes qui ont des difficultés à exprimer leurs sensations, qui ont des difficultés à élaborer avec des mots et à communiquer, la douleur peut en effet être une cause de dénutrition.
Et il y a aussi une autre thématique dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'hygiène bucco-dentaire. En quoi est-ce important ?
Ça fait partie aussi des conditions pour bien s'alimenter, déjà pour bien sentir le goût des aliments. Si on a une mycose dans la bouche, un appareil dentaire mal adaptés, qu'on perçoit un petit peu moins bien le goût des saveurs des aliments, on va s'alimenter moins. Et on sait que plus l'état bucco-dentaire est mauvais, moins bien les personnes s'alimentent. Et pour autant, on sait que c'est aussi quelquefois un peu un défi, en tout cas difficile, de faire des soins dentaires à des personnes qui ne comprennent pas toujours l'utilité de ces soins, ne se laissent pas toujours faire, etc. Beaucoup de chirurgiens dentistes et leurs équipes essayent de justement mener des actions pour pouvoir faire des explorations dentaires, bucco-dentaires, et des soins, disons, vraiment de bon sens, sans aller trop dans la complication, mais des soins qui permettent de mastiquer correctement et comme ça de pouvoir s'alimenter correctement.
Caroline Rio, quelles solutions existent pour pallier la dénutrition, pour redonner le goût de manger, par exemple ?
Mais déjà, travailler sur les idées reçues, parce qu'on reçoit des messages de santé publique pour la population générale qui sont évités de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et on n'a pas forcément notion qu'en vieillissant et en étant malade, le risque, c'est pas de manger de plus en plus et de prendre du poids. C'est le contraire, c'est de vivre sur ses réserves musculaires et de masse grasse et au fil du temps, de pas manger suffisamment en quantité et en qualité. Il y a aussi la notion de protéines. Hein, on a l'impression qu'il faut manger moins de viande, moins de fromage parce que c'est trop gras ou qu'on n'est pas un travailleur de force et que comme on bouge moins, il faut manger moins. Or, c'est faux. Donc déjà, vérifier que les personnes mangent en fonction de leurs besoins et par exemple, pas un dîner trop léger. Puis après, c'est selon si on est à domicile ou en EHPAD, c'est trouver les moyens à domicile de faciliter l'organisation des repas, pas forcément d'emblée un portage de repas, mais vérifier que tout est facile pour la personne pour qu'elle puisse continuer à manger qu'elle aime et pas la mettre au régime, ne pas l'empêcher de manger ce qu'elle a l'habitude de manger sous prétexte que ce serait pas assez équilibré. Et donc faciliter l'aide au repas, souvent les proches se rendent compte assez tardivement que la personne n'utilise plus son four, mange froid ou mange assez monotone, donc gérer les courses, élargir la liste avec des aliments plaisir, qui ne sont pas forcément sucrés, hein, mais qui peuvent être de la charcuterie pour certains, un autre pain, mais lutter contre la monotonie alimentaire, et puis en EHPAD, travailler sur l'environnement du repas et tout ce qui peut permettre de personnaliser et montrer aux personnes qu'on est attentive à leurs envies. Aujourd'hui, on a les projets d'accompagnement personnalisés qui nous permettent de le faire dans la mesure du possible.
Alors, on parle beaucoup de nourriture dans cette émission. Un mot peut-être sur ce qui concerne la soif. Est-ce que c'est une problématique aussi, la sensation de soif dans la maladie, dans les symptômes ?
La perte de la sensation de soif, en fait, elle concerne un peu toutes les personnes âgées, dont celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. En fait, les personnes âgées ressentent pas bien la sensation de soif, elles ressentent pas bien la sensation de faim, et donc tous ces signaux internes sont un peu plus flous, et donc c'est pour ça que c'est assez important de proposer à boire régulièrement dans la journée, comme de proposer potentiellement à manger régulièrement dans la journée. La meilleure façon de savoir si on mange assez quand même, c'est de garder un poids stable. Donc je pense que pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, comme pour les personnes même en bonne santé, entre guillemets, ou avec peu de problèmes de santé dans la population, l'objectif, c'est de garder un poids stable. Et l'hydratation, ben, c'est moins facile cliniquement de le percevoir, mais la seule façon de le prévenir, c'est de proposer régulièrement à boire, et pas forcément que de l'eau, y compris des jus de fruits, puis on peut s'hydrater aussi avec des laitages, des yaourts, des yaourts à boire, etc. Tout ce qui fait plaisir peut être bon à prendre, quoi. Alors, on évite, évidemment, chez les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, l'alcool, ça aide pas trop au fonctionnement neurologique.
Oui, j'ajouterais qu'il n'y a pas que le froid et le sucré comme boisson et qu'on a de très bons résultats avec les bouillons pour les personnes de plus de 80 ans qui apprécient les bouillons clairs. On est étonné aussi de voir que quand on utilise le jus de fruits avec de l'eau chaude, comme une forme de, par exemple pour le jus de raisin, de vin chaud sans alcool ou de jus de pomme avec ou sans cannelle et kiwi l'hiver pour les personnes qui aiment boire ou manger trop froid parce que c'est souvent une plainte dans les commissions restauration dans les EHPAD. ça fonctionne bien aussi. Donc, c'est pas forcément sucré et glacé, selon leur dire.
Alors, il y a aussi les aidants. Est-ce que ça les concerne directement?
Oui, ça les concerne, en fait. Les aidants prennent beaucoup de temps, en plus de ce qu'ils ont à faire pour leur travail, leur propre famille, pour s'occuper des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est pas toujours facile à organiser. Et quelquefois, ça se fait au détriment de leur propre repas. Et on s'aperçoit que les aidants sont parfois à risque de dénutrition. Donc, c'est aussi important pour eux de se peser régulièrement. Et s'il y a une perte de poids, de le considérer comme un signal d'alarme, soit pour témoigner qu'ils s'épuisent un peu à aider la personne malade, soit qu'ils peuvent avoir des problèmes de santé eux-mêmes et dont il faut s'occuper. Donc l'important pour les aidants, c'est pas de pas négliger leur propre statut nutritionnel.
Oui, ce qui est important pour les aidants, c'est de prendre soin aussi de leur propre rythme de vie. Il y a beaucoup d'aidants, quel que soit leur âge, qui sautent les repas ou alors qui ont des troubles du sommeil parce qu'ils sont réveillés la nuit pour surveiller ce qui se passe. Et donc, on a des personnes aussi qui peuvent utiliser la nourriture en sautant des repas et en compensation pour grignoter, qui boivent des boissons caféinées et sucrées pour tenir le coup. Donc, comme l'a souligné Agathe Reynaud-Simon, il peut y avoir des pertes de poids, mais il y a aussi des prises de poids qui sont aussi un symptôme et qui doivent alerter si on fait plus de vrais repas et qu'on mange tout le temps sur le pouce, nuit et jour. C'est aussi le signe qu'il faut trouver des solutions et demander de l'aide.
Oui, justement, ça allait être ma question suivante. Ces aidants qui nous écoutent et qui sont confrontés à la dénutrition du malade, de leurs proches, et puis peut-être la leur sans s'en apercevoir, vraiment, que leur dire aujourd'hui pour qu'ils soient vigilants à tout point de vue?
Faire en sorte de conserver le plaisir du repas et pas considérer le repas comme un pain-somme où il faut manger équilibré et absolument tout ce qu'il faut. Pour les aidants, pour intervenir dans les groupes de soutien aux aidants, c'est sous prétexte que le proche n'a pas forcément droit à l'alcool, ne pas s'interdire de prendre un apéritif le dimanche, continuer à avoir des rituels et se faire plaisir et trouver le moyen de faciliter la préparation des repas pour que ce soit pas trop compliqué et que le moment du repas reste un moment de partage. Et si tel n'est pas le cas, trouver le relais ou des astuces pour peut-être manger avant ou après, mais faire en sorte que pour chacun, ça reste un moment de détente et pas un traitement avec une approche non médicamenteuse sous prétexte qu'il faut manger équilibré et tout ce qu'il faut.
Et vous, Agathe, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux aidants qui nous écoutent et qui sont confrontés à la dénutrition potentielle de leurs proches, la leur, sans le savoir, parce qu'ils sont confrontés à des difficultés? Comment les alerter pour qu'ils soient vigilants, justement?
J'aurais tendance à expliquer, comme je le fais en consultation, que l'aidant et l'aidé est une sorte de binôme et que la santé de l'un est aussi importante que la santé de l'autre. Et donc, si bien sûr, il faut être très attentif aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer et qu'il y a des besoins spécifiques, il ne faut pas que ceci se fasse au détriment de la santé de l'aidant. Et donc, bon, c'est facile à dire, hein, je vous l'accorde, mais il faut garder un œil sur sa propre santé, sur son propre bien-être, et donc essayer de trouver un compromis. Donc, s'occuper de sa santé, c'est aussi, d'une certaine manière, trouver moyen de mieux aider son proche.
Alors, un mot pour terminer cette émission. On va parler de la Semaine nationale de la dénutrition. Vous l'organisez au sein du collectif de lutte contre la dénutrition et elle se tiendra entre les 12 et 20 novembre prochains. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
L'objectif de cette semaine, c'est de sensibiliser le grand public, les professionnels de santé, les tutelles, justement à l'existence de cette dénutrition qui passe un peu sous le radar, qui est un peu une maladie silencieuse parce que les personnes maigrissent et on se dit bah c'est parce qu'elles sont âgées, c'est parce qu'elles sont malades. Et finalement, c'est quelque chose qui est rarement verbalisé dans les consultations médicales, dont les aidants à domicile sont pas toujours forcément suffisamment courant, alors que d'un autre côté, on sait que de peser régulièrement, ce qui n'est pas compliqué, permet d'identifier très tôt la dénutrition, que quand on l'a identifiée, on peut la traiter. Ça paraît difficile de faire manger mieux une personne qui n'a pas beaucoup d'appétit, mais la réalité, c'est que c'est possible et on a un niveau de preuve important pour dire qu'une prise en charge nutritionnelle peut améliorer le poids. En plus, on a aussi un niveau de preuve scientifique important pour dire qu'on améliore l'évolution de la maladie par la diminution des complications médicales de la dénutrition. C'est-à-dire qu'on diminue la perte d'autonomie, on diminue aussi les hospitalisations, les réhospitalisations, les infections. Et donc, vous voyez que toutes ces complications, y compris les complications périopératoires, peuvent être diminuées par une prise en charge nutritionnelle adéquate. Donc, c'est une maladie qu'on a besoin de nommer pour pouvoir la traiter et améliorer le pronostic de la population âgée en particulier, mais aussi de la population plus jeune.
Et vous, Caroline, un mot peut-être sur cette semaine de la dénutrition ?
C'est très important de considérer que manger équilibré, la nutrition, c'est une question de quantité et de qualité et que les besoins sont différents à tout âge et selon les situations. Souvent, on entend dire qu'il faut laisser les personnes à leur âge se faire plaisir. Or, une personne qui ne couvre pas ses besoins énergétiques et protéiques est menacée par la dénutrition, qui est un risque. Et aujourd'hui, on est confronté aussi à des personnes obèses qui prennent du poids ou ne perdent pas de poids, mais perdent de la masse musculaire et dont la qualité de vie est amoindrie. Donc, effectivement, la dénutrition, c'est une affaire qui nous concerne tous et dont il faut parler et agir. La bonne nouvelle, c'est que la solution, c'est de maintenir l'appétit et l'envie de se faire plaisir à table.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnées pour cette émission.
Avec plaisir.
Merci.
Et on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.